This is the Humans Link Audio Experience. The greatest.
Yes, yes, yes. Bonjour à toutes et à tous. Ici Valentin French de humanslink.com et je vous souhaite la bienvenue pour une nouvelle pause café en ce lundi 11 mai. J'espère que vous allez tous très, 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 très bien. Si vous êtes sur Facebook ou si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, nous dire d'où est-ce que vous nous écrivez. Et pour ceux qui ne le savent pas encore, je rappelle l'objectif de ce live, mais aussi de HumansLink, est de créer les organisations dont l'humanité a besoin. Nous croyons que l'adaptabilité et la résilience sont les plus grandes forces de l'humanité. Et c'est pourquoi nous choisissons, avec ce live, de nourrir le lien humain, de favoriser l'entraide, mais aussi la solidarité. Alors, je vois qu'il y a plusieurs d'entre vous qui se connectent aujourd'hui. Ça me fait plaisir de tous vous voir. Dites-nous en commentaire d'où est-ce que vous suivez. Il y a Peggy ici de la Martinique. Salut Peggy. Et aujourd'hui, on va parler de subconscient. On va parler de subconscient. Et d'ailleurs, mon invité est un coach, mais aussi conférencier professionnel labellisé. Il est passionné de la performance individuelle et de la performance collective. Il a exercé une carrière de docteur en médecine vétérinaire pendant 8 ans et il s'est reconverti dans le coaching et l'hypnose ericksonienne pour accompagner de nombreux dirigeants, dont quelques-uns font partie du CAC 40, ainsi que des sportifs de haut niveau pour les aider à avoir accès à encore plus de ressources. Mesdames, messieurs, accueillons Théo Duvergeux. Bonjour Théo.
Salut Val. Salut Valentin.
Comment tu vas, frérot?
Eh bien, je vais super bien. Alors, pause café à 17h, si je prends un café, je ne dormirai pas de la nuit. Donc, moi, je serai à l'eau, si tu veux bien.
Ouais, c'est même plus l'heure de l'apéro pour toi, là.
Bientôt.
Tu as Paris en ce moment, c'est ça?
Exactement. Juste à côté, vers la Défense.
Ok, super. Bon, mais pour ceux qui nous regardent, moi, je suis à Montréal, encore et toujours. Je crois qu'en France, ça a commencé à le déconfinement. Est-ce que tu as observé quelques changements de ton côté?
Alors, le seul changement que j'ai pu observer, c'est que effectivement, pour sortir, on n'a plus besoin de son attestation. Maintenant, il n'y a pas beaucoup de monde encore dans la rue. Je pense que les gens recommencent tout doucement. Salut Sandra. Les gens recommencent tout doucement à sortir, à mettre le bout de leur nez dehors. Et je pense que c'est un peu normal. Hein. Avant de revenir à la normale, ça va prendre un peu de temps.
Mais oui, c'est sûr. Ici à Montréal, c'est repoussé, je pense, au 25 mai. Donc, on n'a pas encore vu le bout. D'ailleurs, toi, comment tu l'as vécu, cette période de confinement?
J'ai adoré.
Tu as adoré, c'est vrai?
Écoute, j'ai pris, je pense, comme tout le monde, ça comme un coup de massue sur la première semaine où on a toutes les émotions négatives qui nous arrivent dans la face. Et comment je vais assumer ne serait-ce que le quotidien, comment je vais assumer les cours pour ma fille, comment je vais assumer mes entreprises qui ne rentrent plus d'argent pendant combien de semaines. Bon, au début, on ne savait pas, ouais. Il y a eu beaucoup d'imprécisions aussi par rapport à tout ça. Et puis, une fois que cette émotion primaire est passée, bah, il faut prendre un petit peu de recul et puis on a commencé à se dire, OK, comment on peut mettre ça à profit pour profiter de ce temps vraiment de calme, de temps d'enfermement pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir penser, pour pouvoir planifier autre chose. Donc, tu vois, j'ai profité beaucoup de ma fille et c'est super parce que c'est des moments, je pense, qu'on n'aurait pas pu passer ensemble en dehors du confinement. C'est des moments aussi où on peut beaucoup réfléchir. Tu vois, quand j'ai un dirigeant qui me disait ça il n'y a pas longtemps, il me disait, tu vois, il y a beaucoup de gens qui vont se poser des questions après le confinement. Il me disait, tu vois, quand les gens partent en vacances, 15 jours, 3 semaines, ils ont le temps de prendre un peu de recul. Salut Lauriane. Ils ont le temps de prendre un petit peu de recul et tu vois, ils se posent quelques questions par ce recul, etc. Mais ils reviennent aussitôt dans leurs automatismes dès les vacances passées. Là, on n'est plus à 3 semaines, on est à plus de 8 semaines, si tu veux. Donc là, tu as beaucoup de gens qui se posent des questions, effectivement, sur le sens qu'ils mettent dans leur travail, sur le sens de leur vie, sur le sens de leurs actes. Et il y en a beaucoup qui vont peut-être abandonner le milieu du salariat pour entrer dans l'entrepreneuriat, tu vois, derrière, et créer un petit peu des vies qui leur ressemblent un peu plus. Donc, j'ai continué à réfléchir dans cette voie-là aussi, et puis travailler sur d'autres opportunités.
Parce que toi, effectivement, c'est une période qui nous a tous fait réfléchir. On en a parlé lors de live précédent, de pause café avec d'autres invités. Effectivement, c'est un point commun. La première semaine, il y a un moment de doute, de remise en question. Enfin, on comprend pas trop ce qui se passe. Puis finalement, bon, c'est une réalité qui s'installe. Et donc, la meilleure manière d'en profiter, c'est de prendre les avantages de la situation, quoi, de bénéficier de ce que la situation nous apporte. D'ailleurs, est-ce que tu penses, parce que tu parles de ces remises en question que certains chefs d'entreprise auront après 8 semaines, revenir, puis même des gens qui sont dans le salariat et qui pensent peut-être à une reconversion ou à questionner le sens. Pourquoi est-ce que tu penses qu'il y a cette notion de sens qui revient? Pourquoi on remet, en prenant ce recul, pourquoi il y aurait cette volonté de changer qui arrive?
Ah, alors ça, écoute, vous avez 3 heures? On est parti. Donc, on va essayer de résumer à un niveau individuel et ensuite à un niveau un peu plus global. À un niveau individuel, je pense que de toute façon, c'est en ce moment, on le voit, on le sent quand on travaille un petit peu avec différentes populations, la question du sens, elle est prépondérante et d'autant plus dans les générations qui sont en train de monter, les millennials notamment dont on parle. Alors, ça, si tu veux, quand j'en parlais la dernière fois à un consultant, il me disait, mais alors, c'est un consultant qui a 65 ans, il me disait, tu sais, moi, depuis que je suis rentré dans le monde du travail, on a toujours dit que les jeunes voulaient remettre une question de sens. Bon. Mais là, on le voit vraiment. On voit notamment que les jeunes qui s'installent notamment dans les startups préfèrent s'installer dans des startups plutôt que dans des grands groupes parce qu'il y a une question de sens qui est prépondérante bien avant le côté je vais gagner de l'argent, je vais acheter une jolie maison, etc. Non, c'est la réalisation de soi qui est très importante aujourd'hui pour ces populations-là. Probablement à cause de l'éducation. Hein. Moi, je suis encore d'une génération, je suis d'une génération entre les deux, moi. D'une génération où mes parents me martelaient, pense à ta retraite. Alors que maintenant, je vois les jeunes, les parents, les élèves dans le respect de qui ils sont réellement. Tu vois, les écoles Montessori, on en voit de plus en plus. On entend parler de feedback positif, de parentalité positive. Ça, c'est des choses nouvelles. Enfin, nouvelles, c'est 15 ans hein, en réalité que ça existe, 15, 20 ans que ça existe, dont les millennials ont pu bénéficier. Et aujourd'hui, pour eux, c'est très important donc de se réaliser eux-mêmes. Maintenant, si je devais aller à un niveau plus macro, qu'est-ce qui se passe? Ben, on commence à se poser des questions parce que on se rend compte que ce monde, s'il continue comme ça, ben, il va à sa perte. Tu vois, cette espèce de course galopante à la mondialisation au profit, bien, ça amène des catastrophes terribles. Ça amène des délocalisations qui sont stratégiquement complètement idiotes. On le voit, on ne se protège plus, on n'a plus de quoi se protéger, on n'a plus de quoi réagir face à une crise parce que les crises, il faut toujours pouvoir y penser. Là, on a pensé à rien du tout. Les masques ne sont plus là. Les médicaments ne sont plus là. Il n'y a plus d'usines de fabrication de médicaments en France. Tout est délocalisé. Oui, mais si les ponts se coupent, comment on fait? Donc, il y a tout un tas de questions qui doivent se poser aussi sur, bah, finalement, est-ce que ça vaut pas le coup de payer les choses un peu plus chères, mais qu'on ait une forme aussi d'indépendance, d'autonomie par rapport à cette mondialisation qui est galopante. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se remettent en question par rapport à ça, qui remettent aussi en question le système, qui remettent en question aussi la Startup Nation, qui nous a été, martelée il y a 3 ans, et puis qui, on se rend compte, ça marche pas, quoi. C'était joli sur le papier, mais ça n'a pas été suivi. Et puis, quand on va gratter un petit peu plus loin, on se rend compte qu'il y a eu beaucoup d'erreurs qui ont été faites. Donc, tout ça, c'est que chaque individu veut aussi, se remettre en question ce qu'il pense, remettre en question son mode de gouvernement. Et bien tout ça, ça amène des questions qui font que, bah oui, c'est une période qui a été propice, on va dire, à tous ces changements. Donc maintenant, la question qui va s'ouvrir, c'est qu'est-ce qu'on va en faire de tout ça? Est-ce qu'on va revenir dans l'ancien paradigme ou est-ce qu'on va déconstruire? C'est une question qui est vraiment pas facile parce que notre cerveau déteste le changement, quoi qu'il arrive. Notre cerveau déteste le changement parce que tout changement va nécessiter un effort cognitif, va nécessiter de brûler de l'énergie, entre guillemets, et tu sais bien qu'on déteste brûler d'énergie. On est fabriqué pour ne pas brûler d'énergie.
Ouais, donc, la nature est tout le temps en train d'optimiser. Ouais.
Et le changement, ça va entraîner des incertitudes, ça va entraîner donc de la peur. Donc, ceux qui vont oser affronter leur peur, ceux qui vont avoir le courage de maintenir, on va dire, leurs pensées et les transformer en actes dans le monde de demain, là, j'espère, moi, qu'ils vont entraîner avec eux tous ceux qui sont réfractaires au changement. Maintenant, il y a aussi un truc, hein, c'est qu'on oublie vite, malheureusement, et notre cerveau est orienté vers la gratification à court terme. Donc, faire un effort pour que la planète aille mieux, bon, ok, bon, elle ira mieux dans 50, 60 ans, moi, je le verrai pas, peut-être mes arrière-petits-enfants les verront. En revanche, là, maintenant, tout de suite, acheter une plus grosse voiture qui dépense plus, ça va me faire du bien à moi. Donc, c'est une gratification à court terme qui me plaît beaucoup plus, et donc, pouf, automatiquement, il y a beaucoup de gens qui vont s'orienter là-dessus.
Est-ce que cette période de confinement, quelque part, ça a exacerbé ces, C'est la perception de choses qu'on pouvait se dire, ouais, ça arrivera plus loin, etc. En fait, on le vit plus proche de nous. Puis simplement aussi le fait de. Ouais, vas-y, Théo, je t'en prie.
Non, je vais te donner moi la métaphore, parce que cette question-là, elle est, à mon avis, elle est cruciale. Alors, je fais un pronostic, hein, tu sais, en hypnose, on fait toujours des comparaisons, on fait toujours des métaphores, et moi, j'ai l'impression qu'en ce moment, on est un fumeur qui vient de passer 3 semaines de vacances sans clope. Donc, il se rend compte que c'est cool, que c'est sympa, que le matin, il pue pas de la bouche, qu'il tousse pas, que, en fait, il a économisé même un peu de sous, que sa santé va mieux. Sauf que quand il va revenir dans ses routines, la première chose qu'il va faire, c'est aller au bureau de tabac, etc. Il y en aura peut-être, hein, qui vont arrêter effectivement la clope et maintenir cet élan, mais il y en aura, je ne sais pas combien, qui vont recommencer à faire exactement comme avant.
D'ailleurs, un exemple de ça, c'est on a vu des files d'attente interminables au McDo, par exemple.
Ouais,
Parce
bah
que
ouais, rien que ça
donc
déjà.
c'est ouais c'est mais c'est je trouve que ça fit bien dans ce que tu dis.
Ouais,
D'ailleurs,
c'est
mais
étrange,
dans
mais.
cette période de confinement, il y a eu énormément d'informations qui ont circulé. On entendait tout et son contraire. Et il y a un graphique qu'on m'a partagé qui est donc la courbe en rouge qui montre en fait la quantité et le flux de données qu'on va recevoir. Et en vert, c'est notre capacité cognitive. Donc notre capacité consciente quelque part à gérer cette information-là. Et en fait, on voit clairement qu'à un moment donné sur le graphique, il y a un point de rencontre où la quantité d'informations qu'on va recevoir ou auxquelles on va s'exposer quelque part dépasse notre capacité à cognitive à l'assimiler, à l'utiliser. Est-ce que
Exactement.
qu'est-ce que ça signifie quelque part ce graphique-là?
Eh bien, écoute, il faudrait le demander à la personne qui nous l'a donné. Mais ça, c'est pour lui faire un petit clin d'œil. Non, moi, ce que ça signifie aussi, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, si tu veux, on est tellement submergé, le mot, je pense qu'il est exact, submergé d'informations. Et puis quand on regarde bien le système d'information qui nous submerge, c'est justement toujours un système qui est très polarisé. C'est un système qui est orienté pour une seule et bonne raison, c'est, on ne va pas se mentir, avoir de l'audimat. Donc pour avoir de l'audimat, il y a certaines informations qui vont être préférées plus que d'autres. Et les chaînes vont faire le choix de ces informations. Ce sont des informations sensationnelles. Ce sont des informations qui attirent la pensée, qui attirent le regard. Tu reverras beaucoup plus souvent dans un journal télévisé d'informations négatives que d'informations positives. Il y a quelques années d'ailleurs, il y avait, je sais plus comment ça s'appelait ce média, qui avait créé un média qui diffusait que des informations positives. Il avait zéro lecteur, quoi. Ils ont fermé, ils ont fait faillite tout de suite parce que ça ne marchait pas. Et tu regardes un journal télévisé ou tu regardes les unes des journaux de la presse écrite, c'est toujours pareil, c'est toujours des titres à sensation pour pouvoir attirer l'attention parce qu'encore une fois, notre cerveau est beaucoup plus attiré vers tout ce qui est phénoménal, vers tout ce qui peut être dangereux. On doit
Tout ce
être
qui va
beaucoup plus routine.
disrupter en fait le tout ce qui va disrupter, interrompre le cours normal des choses ou le
Exact. Puis tout ce qui peut représenter une menace. On est beaucoup plus sensible, si tu veux, à ce qui peut représenter pour nous une menace que, au contraire, ce qui peut représenter pour nous du calme ou du bien-être, etc. Notre cerveau est plus sensible à ce qui peut représenter une menace. Souviens-toi, le but ultime de la vie, c'est de se reproduire, c'est de se maintenir. Et donc, on est logiquement beaucoup plus câblé à voir les endroits qui pourraient nous abattre que de voir les moments où tout va bien, c'est cool. D'accord? Et donc, effectivement, à part certains journaux indépendants, tu vois, je pense notamment ici, on a Mediapart, à part certains journaux indépendants, c'est très, très compliqué d'avoir une information aujourd'hui de qualité. Et d'autant plus, ce qui est assez rigolo, hein, c'est qu'une information, elle va être aussi polarisée par différents biais cognitifs. Tu vois, les biais de confirmation d'hypothèse. Si, par exemple, alors attention, je vais jeter un gros pavé dans la mare, si, par exemple, moi, je suis persuadé que, les lobbies pharmaceutiques nous empoisonnent avec les vaccins, dès que je vais voir une information qui dit que on a fait une injection de vaccin à quelqu'un et cette personne a fait un choc anaphylactique, ça va renforcer ma croyance que les lobbies pharmaceutiques nous empoisonnent avec les vaccins. Je ne vais pas voir toutes les autres personnes qui ont été soignées grâce à ce vaccin, si tu veux. Je vais être orienté là-dessus. Donc, il y a effectivement cette différence entre ce qu'on peut voir, ce qu'on peut assimiler, ce qu'on peut comprendre. Et comme dirait Bernard Werber, entre ça, il y a des centaines de façons de se planter. Entre ce que j'entends, ce que je comprends, ce que je vois, ce qu'on me
Ouais.
dit, c'est
Ce qu'on a voulu me
quelque
dire,
part.
ce que moi j'ai compris, ce que.
Exactement,
Du
exactement.
coup, est-ce que
Donc, fermez votre télé.
Le biais cognitif, ouais, en fait, ce que tu dis là, c'est d'être vigilant à ce qu'on va consommer comme information, dans la quantité, mais aussi dans ce que ça va, enfin, comment on va l'interpréter par rapport aux différents biais qu'on a. Est-ce que le biais dont tu viens de parler, c'est aussi le mécanisme du cerveau où tu sais, tu achètes une voiture jaune ou ta femme a acheté une nouvelle voiture, c'est tel modèle, puis là, d'un coup, tu vois tous ces modèles-là partout?
Exactement, ça rapproche exactement, tu ne vois que ça parce que c'est comme si ton cerveau s'était orienté vers ça. Tu sais, c'est comme, tu as probablement déjà fait l'expérience d'une soirée un petit peu animée où il y a plein de monde autour de toi et puis au fond de la salle, il y a quelqu'un qui dit « Ah ben, il y a Valentin là-bas » et pouf, là, au milieu du brouhaha, tu entends le mot « Valentin ». Tchac! Et là, tu te retournes. Tu avais complètement noyé toutes les informations et ah, il y a une information que tu entends, boum, tu l'as captée. Notre
Ouais,
cerveau, il est
même des
orienté
fois, ils n'ont pas dit Valentin et je l'ai entendu quand
comme bon, ça dépend de l'heure de la soirée. Alors voilà.
C'est ça. Non, mais je rigole. Ok, donc, et donc ça, qu'est-ce que, d'un point de vue peut-être mécanique, comment tu expliques ça?
C'est un point de vue, c'est vraiment une façon dont notre cerveau va polariser l'information. On a une capacité sélective à percevoir le monde extérieur. Et on va dire, en fait, pour revenir à notre sujet, notamment l'hypnose, aujourd'hui, on a ce qu'on appelle une carte du monde, à l'intérieur de laquelle, salut Yolande, à l'intérieur de laquelle, bien, on va avoir une certaine réalité. Tu vois, il y a un grand classique, c'est quand deux personnes vont s'engueuler pour une forme de réalité. Un homme et sa femme qui s'engueulent, tu m'aimes plus, tu me le dis plus, tu ne m'aimes plus, tu me le montres plus. Chacun va avoir une carte du monde différente. La femme va dire, tu ne m'aimes plus parce que tu ne me le dis plus. Parce qu'elle va être très auditive, elle va avoir besoin qu'on lui dise, et le mari va lui dire, mais si je t'aime, regarde, je t'offre des bouquets de fleurs énormes. Lui, ça va être quelqu'un de beaucoup plus visuel, il va montrer son amour. Ils ont tous les deux une carte du monde super différente, ils parlent de la même chose, mais ils arrivent à s'engueuler quand même. Notre réalité, ben moi, je sais pas ce que c'est. Donc, pareil, quand je recherche des informations, la réalité, je ne sais pas ce que c'est. En revanche, je sais que je ne sais pas. Donc, je pense, et ça, vraiment, c'est mon opinion, je pense que la seule chose à faire quand on a une information, c'est de remettre tout en question. Et si c'était vrai, et si c'était faux? Tout le temps. Ne pas prendre les choses comme argent comptant, ne pas prendre les choses de manière. On n'est pas dans la théorie du complot non plus, hein, on ne va pas tout remettre tout à faux, mais et si c'est
Bien
vrai, et
sûr.
si c'est faux? Comment moi je me fais mon opinion? Et moi je me fais souvent une opinion en fonction justement de mes idées précédentes. Et c'est ça le problème. Encore une fois, si je reprends l'exemple du vaccin, les gens qui sont anti-vaccins, si moi j'ai dans l'idée que le vaccin c'est quelque chose qui tue les enfants, on va me montrer 10 personnes qui ont été soignées par un vaccin, il y en a une qui a une réaction inflammatoire, je ne vais voir que celle-là. Parce que dans ma réalité, dans mes croyances, qui est aussi un autre terme d'hypnose ou de PNL, eh bien, je vois le monde en fonction de ça. Je vois le monde en fonction de ses réalités ou ses croyances. Donc c'est pareil pour les informations aujourd'hui. Et tu remarqueras qu'on est très souvent très copains avec quelqu'un qui a les mêmes pensées que nous, parce que cette personne partage la même carte du monde que nous. Donc elle nous ressemble, donc inconsciemment, elle fait partie de la même tribu que nous. Voilà mon cher Valentin.
Ce que je suis en train de chercher en fait une carte. Il y a une carte des biais cognitifs et il y en a énormément.
Ah oui, il y en a des soixantaines. Oui, c'est énorme, hein.
qui sont donc en fait c'est de comprendre enfin c'est l'importance de comprendre que notre cerveau fonctionne et parfois il y a des modes de fonctionnement qui auxquels on se rend pas compte nécessairement. Et qui peuvent nous desservir, mais aussi nous servir. Et c'est ce qu'on appelle le subconscient. Est-ce que tu
Ah,
peux...
ouais.
Ou l'inconscient?
Ah. Alors, subconscient, inconscient, supraconscient, infraconscient. En hypnose, on a une classification qui est assez simple. On va faire très simple, conscient
Oui.
et inconscient.
OK. On
Et
fait
on
pas
va
de
utiliser.
psychologie,
Non, pas du tout, parce que de toute façon, il y a toujours des débats d'experts là-dessus. Et moi, je pense que on va essayer d'être très pragmatique quand on va
Bien
parler de
sûr.
ça.
Oui, puis aussi,
Confiance.
puis les gens aujourd'hui, c'est ça, on veut comprendre okay, entre le conscient et l'inconscient, comment on peut mieux naviguer dans ces clés-là et savoir comment ça peut nous servir ou nous desservir pour être mieux équipés.
Exactement. Alors le conscient, typiquement, on utilise toujours une métaphore qui est la partie émergée de l'iceberg. C'est ce que je vois. Et ça représente, quand tu regardes bien, 1/10 du glaçon. L'inconscient, ça serait la partie immergée. Je la vois pas, j'y ai pas tout de suite accès, sauf si je vais en plongée. si je traduis, si j'entre en état d'hypnose, je peux y accéder. Je vais utiliser une métaphore plus 2.0. L'inconscient, pour moi, c'est, tu vois, dans un ordinateur, il y a toujours un système d'exploitation. Que ça soit iOS ou Windows 10, si on est encore Windows 10 en ce moment, je sais pas à combien on est, mais ça, c'est le système d'exploitation de l'ordinateur. Eh bien, à moins d'être un informaticien, tu vas jamais mettre les mains dedans. Jamais. Cependant, ce système d'exploitation, c'est ce qui va faire tourner l'ordinateur de manière correcte ou incorrecte. Et parfois, il peut arriver qu'une ligne de code soit légèrement défectueuse. Alors, ce qui se passe quand une ligne de code est défectueuse, c'est que tu peux installer tous les logiciels que tu veux. Eh bien, ça va continuer à faire bugger le logiciel parce que cette ligne de code aura été mal encodée. Et donc, tous les patchs, entre guillemets, que tu pourras rajouter, toutes les pseudo-thérapies que tu pourras ajouter derrière, eh bien, risquent d'améliorer en superficie le problème, mais profondément, ça risque de rebugger 5 ans après, 1 an après, 6 mois après. Donc, le rôle, si tu veux, de l'hypnose et du praticien en hypnose, c'est d'aller rechercher l'endroit où il peut y avoir un bug et de permettre à la personne, aux participants, à l'hypnotiser, de réparer elle-même, grâce aux outils de l'hypnotiseur, ce bug, pour pouvoir remonter à la conscience avec, tac, tout mis en place.
J'adore cette... En tout cas, moi, ça me parle beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup cette analogie. Ouais, parce que j'aime la technologie, mais surtout qu'on utilise tous un téléphone sur lequel on installe des applications.
Ouais.
Et avec le temps, on comprend cette notion de « Ok, on doit faire une mise à jour, faut mettre ton iPhone à jour, faut mettre ton ordi à jour, etc. » Je pense que ça peut parler, même si on ne sait pas nécessairement comment ça fonctionne dedans, mais à l'intérieur, mais ça reflète bien aussi. On ne sait pas nécessairement comment ça fonctionne avec l'inconscient et dans cet inconscient, justement. Et tu avais étudié en médecine vétérinaire, tu as pratiqué pendant 8 ans, puis après, tu t'es reconverti avec l'hypnose ericksonienne. Là, tu viens d'expliquer comment l'hypnose peut servir à aller dans cette partie logicielle, dans cette toucher l'iceberg, la partie submergée, immergée. Donc en fait, c'est pas ça l'hypnose.
Ça peut être ça. Mais ça peut être ça. L'hypnose, il faut différencier deux choses. Tu as l'état d'hypnose et tu as la technique hypnotique, qu'on appelle l'hypnose. Je suis en hypnose ou je fais de l'hypnose. Bon, donc c'est la technique ou l'état. Il y a des techniques d'hypnose qui correspondent à ce que tu viens de nous montrer. L'hypnose de scène, l'hypnose qui amène beaucoup de fascination, c'est le mot d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle l'hypnose de spectacle. Mais c'est une hypnose qui est présente depuis des millénaires. Du temps des pharaons, tu avais déjà des prêtres hypnotiser des sujets qui tombaient bam, en transe. On le voit encore aujourd'hui dans certaines sociétés où, par exemple, tu as un gourou au milieu d'un village qui va prendre 2-3 entre guillemets sujets, qui va leur faire une passe magique. On voit les personnes qui rentrent en transe comme ça. Bon. Eh bien, ce genre d'hypnose, c'est exactement la même chose que l'hypnose de spectacle. Tu as en général quelqu'un qui est charismatique, qui prend une grosse voix, qui prend des gros yeux et qui, par son charisme, va imposer entre guillemets sa volonté à une personne qui va être plus sensible, qui va être plus impressionnable. Alors, encore une fois, ça va dépendre des croyances que l'on a. Tu vois, je reprends sur ces peuples, par exemple, où tu as le gourou qui croit beaucoup en ce gourou ou en ce guérisseur. Si je crois que le guérisseur, quand il va me regarder et me faire ça, je vais tomber, j'ai toutes les chances du monde de tomber et de ressentir la chose. Tu sais, c'est un peu la même chose que si tu es sur une planche à 20 cm ou si tu es sur une planche à 20 mètres. Dans un côté, tu vas croire que tu vas tomber. C'est parce que tu crois que tu crées l'effet. Dans un deuxième cas, tu as de l'hypnose qui est ce qu'on appelle l'hypnose ericksonienne. Alors, cette hypnose ericksonienne, c'est une hypnose qui n'a pas grand-chose à voir avec l'hypnose de spectacle, mis à part qu'on amène les gens dans un état d'hypnose. On les amène en transe. Le mot exact, c'est la transe. Maintenant, normalement, quand c'est bien fait, l'hypnotiseur ne va pas prendre le pouvoir sur la personne. Tu vois, moi, pour avoir formé beaucoup d'hypnotiseurs, il n'y a rien qui m'énervait plus quand j'entendais quelqu'un qui disait « j'ai fait arrêter cette personne-là de fumer ». Mais tu n'as rien fait du tout. Entre guillemets, tu as aidé la personne à faire par elle-même. Ce genre d'hypnose permet à la personne si tu veux, tu l'accompagnes, tu l'amènes là où peut-être ça déconne, et elle va elle-même faire le chemin pour pouvoir grandir, changer, se libérer. Imagine à quel point c'est beaucoup plus humain de faire cette chose-là plutôt que de dire « je fais pour toi ». Tu sais, c'est comme apprendre à pêcher à quelqu'un qui a faim. C'est exactement pareil. Imagine la fierté qu'a une personne quand elle se dit « je m'en suis sortie toute seule ». Bravo, super. J'ai juste été accompagnée par quelqu'un qui m'a montré. L'hypnose ericksonienne, c'est une hypnose très permissive. On ne va pas donner d'ordre à la personne. On ne va pas lui. Alors, c'est pas tout à fait vrai, mais on va pas rentrer dans un débat d'expert, mais on ne va pas lui imposer des choses. On va ouvrir des espaces où la personne va pouvoir aller si c'est le bon moment pour elle, si c'est écologiquement viable pour elle, si tout est OK pour elle, elle va y aller ou pas. La dextérité de l'hypnotiseur, à mon sens, c'est une dextérité de stratège. Le job de l'hypnotiseur d'accompagnement thérapeutique, c'est de trouver la meilleure stratégie de communication avec cette personne pour pouvoir l'amener là où elle peut aller. Est-ce que tu as compris la différence?
Oui, et je suis en train de digérer parce que...
Saturation cognitive.
Alors, pas nécessairement, ça m'inspire beaucoup. En fait, j'adore l'approche stratégique. Et ça me fait penser aussi quand je t'écoute parler à une approche presque de coaching. Donc, avec beaucoup de bienveillance, il y a la notion de confiance qui s'installe entre le coach et le coaché. Donc, entre l'hypnotiseur, quelque part, l'hypnothérapeute et le patient, le sujet. Et j'aime beaucoup l'idée de pouvoir donner le pouvoir aux gens de faire les choses, de pouvoir changer leur vie. Et du coup, quelque part, moi, quand je t'entends, ça me donne envie d'utiliser cet outil-là parce que je viens de prendre conscience j'ai fait remonter dans mon esprit conscient qu'il y a toute une partie de mon iceberg à laquelle je n'ai pas nécessairement accès. Et il y a plusieurs manières de pouvoir aller optimiser cette partie-là, mon inconscient. Est-ce qu'on peut revenir sur comment notre subconscient, enfin notre inconscient ici, peut nous servir, en quoi c'est notre allié? Mais je crois aussi que ça peut nous jouer des tours. Est-ce que tu peux...
On va en parler avec grand plaisir. Ton inconscient, ça peut être... Alors là, je vais me faire disputer s'il y a des hypnotiseurs qui regardent. J'adore, je suis un rebelle, j'assume. Encore une
d'ailleurs,
fois... Parce que
d'ailleurs, je... ouais. Théo, juste avant, je salue Eliane, Eliane en commentaire qui est là. Et qui témoigne d'un outil puissant que j'ai d'ailleurs expérimenté avec Théo. Ah, et oui, parce que Théo et Eliane, en fait, étaient deux personnes qu'on aime beaucoup, beaucoup, beaucoup avec Humans Link et qui étaient présentes lors de la week, le dernier événement qu'on a organisé en novembre dernier. Et donc, en tout cas, Eliane, ça me fait plaisir de te voir sur le chat aujourd'hui. Donc, je t'en prie, Théo, continue.
Oui, c'est super. Merci, Eliane. Alors, effectivement, l'inconscient, c'est ta banque de données. Autrement dit, ce sont tes automatismes. Et tu as des automatismes qui sont absolument positifs. Je vais poser une question à l'ensemble des auditeurs ici présents. Eh bien, je te pose à toi aussi. Avec quel pied tu freines?
Avec, pardon?
Quel pied tu freines?
Ok.
Bon, trop tard, t'as pris la bûche.
En fait, j'ai la réponse, mais je ne savais pas s'il fallait que je la dise. Je savais...
quand je présente en gros l'hypnose et notamment l'inconscient, je pose tout de suite cette question et je compte les secondes qui s'écoulent.
Ouais.
Et en général, il y a toujours une et demie, deux secondes avant que la personne me le dise, c'est avec le pied gauche. Donc en plus, elle se trompe. Alors, on freine avec le pied droit.
Hein. Okay. Ouais, alors, freiner avec le pied droit. Là, dans l'exercice, j'allais te le dire tout de suite. Enfin, c'est venu instantanément. Il y a une image dans ma tête.
Excellent. Eh bien, en gros, quand les gens font cette expérience, ils se rendent compte que le temps de réponse est beaucoup plus lent que l'automatisme qui se mettrait en place si jamais il y avait effectivement le danger qui arrivait sur la route. Tac, tu vois, ça viendrait automatiquement. Inconsciemment, on a intégré l'information, on a intégré le réflexe neuromusculaire pour freiner quasiment instantanément. Bon, l'inconscient va être notre pote à ce moment-là parce que bien, quand on conduit une voiture, moi, tu vois, je suis motard et pourtant, c'est dangereux la moto. À plein de moments, mon esprit peut divaguer et la moto conduit toute seule.
Ouais.
Plein de moments, ton esprit peut divaguer.
On le fait tout le temps dès qu'on conduit en voiture. Enfin, dès qu'on est en voiture.
Exactement.
D'ailleurs, tu me disais, on avait fait l'expérience d'une interview, toi et moi, et tu me disais, C'est dans une voiture d'ailleurs avec et tu me disais mais d'ailleurs en conduisant on peut rentrer sous état hypnotique quelque part.
Ouais, souvent, ouais. Parce que tu vois l'autoroute, ça berce un petit peu, c'est long, c'est pénible, ouais. Au bout d'un moment, on s'endort quoi. Puis on a fait chaud, tu t'as la musique, tu berce un petit peu. Donc au bout d'un moment, on rentre dans un état hypnotique quand on conduit. C'est
indubitable. Je vais juste dire à Julie Julie Cotel, David qui nous écrit en commentaire que j'ai vu sa question, je vais la faire remonter dans un instant.
Yes. Salut Julie, à tout de suite. Donc ça, si tu veux, c'est les moyens qu'on va avoir, enfin, le moyen que va avoir ton inconscient pour t'aider. Mais on peut aller chercher autre chose aussi. L'inconscient, quand on va un petit peu plus loin, c'est aussi tous tes automatismes physiologiques. Quand je me coupe, j'ai pas besoin de réfléchir à « attends, comment je dois faire pour cicatriser ?» Ça se fait automatiquement, inconsciemment. Parfois, on a aussi… Et là, on va mettre la casquette du docteur en médecine veto, sinon là, je vais vraiment me faire taper, mais là, par les médecins. On peut avoir des process inconscients, et on le sait, sur recovery. Ça y est, je fais mon Jean-Claude Van Damme. Sur,
Alors, bon, ouais, tu demandes à quelqu'un qui vit à Montréal depuis presque 10 ans, je pense que moi aussi, j'ai beaucoup de mal avec les anglicismes.
Bon, alors, recovery, c'est quand tu es malade et que tu veux aller mieux.
Voilà.
Jean-Claude Van Damme sort de ce corps. Et en gros, l'inconscient, on sait très bien le rôle qu'il joue.
Récupération.
Voilà, on sait très bien le rôle que l'inconscient va jouer dans l'amélioration de l'état de santé de certains patients. Tu vois, il va suffire d'un mot de l'aide-soignant, du médecin, etc. pour favoriser la guérison. Par exemple, là, c'est des endroits où l'inconscient peut aider. On a plein d'endroits comme ça où l'inconscient peut aider. Quand tu as, ne serait-ce que, tiens, ça s'est arrivé aussi souvent quand j'étais plus jeune, un examen. Bon, tu dois passer le bac ou je sais pas quoi, tu as un examen, alors que d'habitude, tu n'entends jamais ton réveil, le jour de l'examen, tu arrives à tout ouvrir les yeux 5 à 10 minutes avant ton réveil. Ton inconscient, paf, t'a envoyé le message. Réveille-toi. Donc, ça va être sur la mémorisation, ça va être sur la gestion des émotions, tout un tas de choses qui vont te permettre de te dépasser. Maintenant, moi, je vois les gens dans des moments de leur vie où leur inconscient, c'est pas leur copain du tout. Ah. Je vois les gens parce qu'ils ont des problèmes. Ils ont des problèmes parce que leur inconscient a appris que agir comme ils agissaient, c'est cool. Je te donne un exemple.
Ouais.
Prenons l'image d'une personne qui a peur, mais une peur maladive, de l'avion. C'était mon cas à l'époque avant de faire de l'hypnose. Mais cette personne-là, avant de prendre l'avion, elle ne peut pas prendre l'avion, son corps se paralyse, elle peut avoir la nausée, elle peut tomber dans les pommes. Son inconscient va fabriquer tous ses états, qui sont des états d'hypnose puissants, hein, tomber dans les pommes, avoir des nausées, etc., pour l'empêcher de mourir, parce que son inconscient a assimilé l'avion avec la mort. Donc, pour freiner la personne, pour empêcher la personne, soi-disant, de mourir, elle va générer des états très, très violents. L'inconscient n'est pas son pote. Mais attention, c'est le même inconscient, peut-être, qui, cette personne est en train de discuter avec un ami sur le trottoir, et là, avant même de traverser la route, elle ne voit pas arriver la voiture, mais tac, son inconscient l'arrête pour l'empêcher de mourir. Dans un cas, son inconscient est son pote. Dans un autre cas, il n'est pas du tout son copain, en fait, parce qu'il l'empêche d'être libre.
Alors, ce que j'entends quand même, c'est que l'inconscient, c'est un bon système. La nature est bien faite. Donc, déjà, je remonte juste l'image pour qu'on on puisse bien comprendre à quel point la disproportion, en fait, entre la partie consciente qui est très fine, et la partie inconsciente qui en fait est prédominante, et tu l'as expliqué, ça va agir sur des mécanismes multiples. Mais ce que j'entends ici, c'est que dans les deux cas, l'inconscient va fabriquer des comportements ou des états d'être pour nous sauver. Donc c'est tout le temps dans un but de nous protéger.
Oui, et parfois, tu vois, il fait des bêtises.
Parce que là, il y a une perception du danger qui n'est pas nécessairement réelle. Donc, c'est des croyances après. Donc là, c'est là où notre logiciel dont on parlait tout à l'heure.
Les expériences, les croyances, l'apprentissage a fait que la personne a intégré certaines informations qui sont en fait pas bonnes. Et tu le vois. Regarde, par exemple, je reprends l'exemple du tabac. Une personne, consciemment, elle sait que c'est mauvais, que ça lui file le cancer. Mais inconsciemment, le tabac, c'est un moyen pour elle de socialiser. C'est un moyen pour elle de calmer ses nerfs. C'est un moyen pour elle de faire une pause. C'est un moyen pour elle de… Bon, et ce qui se passe généralement, d'ailleurs, quand les gens arrêtent de fumer sans l'hypnose, ils arrêtent de fumer juste avec la volonté, ils ne s'occupent pas de leur partie inconsciente. L'inconscient, il avait l'habitude d'avoir un comportement pour pouvoir gérer justement ce côté je prends soin de toi, je prends du temps pour toi, je fais une pause, etc. Les personnes arrêtent de fumer uniquement par la volonté. Mais maintenant, prendre soin de toi, faire une pause, se détendre, ben, l'inconscient met en place un comportement. Généralement, c'est du chocolat ou de la bouffe. C'est pour ça que souvent, les personnes qui arrêtent de fumer sans hypnose ben, prennent 5-10 kilos parce que leur inconscient, tac, il remet quelque chose pour pouvoir s'occuper de tous ses besoins inconscients derrière.
Je vais faire remonter la question de Julie ici. Oui. Julie, question un peu personnelle. Est-ce qu'une femme enceinte peut se faire aider sans risque par l'hypnose pour traiter des peurs?
Ah oui, sans aucun problème. Sans aucun problème. Tu sais, moi, je suis dans un cabinet qui s'appelle Bébé et moi, où on a une grosse spécialisation justement sur les femmes enceintes. Et on utilise ça vraiment avec grand bonheur. Les bébés, ça les détend, ça les calme aussi. Et donc, il y a absolument aucun souci. Le seul endroit, si tu veux, où l'hypnose, moi, je l'utilise pas, c'est sur les personnes qui ont des tendances psychotiques. Là, si tu veux, je vais le laisser entre les mains d'un psy.
Ok. Ok, super. Bon, mais Julie, dis-nous en commentaire si c'est une réponse si ça répond à ta question. Et puis si tu veux apporter des précisions aussi, tu peux même
sur les besoins.
Ah bon, sur des besoins, sur des peurs et tout. Puis vous pouvez même nous écrire sur Human Sync en privé si jamais.
Donner une petite anecdote à Julie. Dernièrement, j'ai eu une femme qui était enceinte et qui est venue me voir alors assez tôt au moment de la grossesse. C'est marrant, c'était une femme que je connaissais avant qu'elle ne tombe enceinte et elle avait une phobie du sang. Alors, elle voyait du sang, elle tombait dans les pommes. Et si tu veux, on ne travaillait pas là-dessus avant qu'elle tombe enceinte. Et je savais que si je travaillais avec elle, alors qu'elle n'était pas enceinte là-dessus, ça n'aurait pas fonctionné. Et si tu veux, j'expliquerai pourquoi. Ouais. En revanche, quand elle était enceinte, travailler là-dessus, c'est devenu très facile. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un événement qui allait arriver bientôt, c'était son accouchement. C'était aussi la gestion de son enfant, si un jour il saignait, qu'est-ce que je peux faire? Et ce jour-là, si tu veux, on l'a accompagné complètement pour son accouchement, pour la gestion du sang et ainsi de suite, pour qu'elle ait absolument plus peur, même toutes les prises de sang pour sa grossesse, et c'est passé comme une fleur. Alors, la question, c'est pourquoi c'était plus facile pendant sa grossesse qu'avant? Parce qu'une peur va super bien s'accompagner quand derrière, il y a une peur plus grosse. Là, il y avait une peur plus grosse que sa peur de soigner son problème. En gros, se confronter au sang, la plupart des gens vont vouloir éviter leur peur. Mais elle, la peur plus grosse, c'était de ne pas savoir gérer si mon bébé avait un jour un souci. Donc, grâce à cette peur plus grosse, c'était un levier de motivation tac, pour pouvoir lui permettre de se séparer complètement de sa peur du sang.
Ok, j'entends. Justement, il y a Julie qui complète et dit « ça n'a rien à voir avec la grossesse, mais le timing fait que j'aimerais bien m'en débarrasser pendant la grossesse. » Clin d'œil. Eh oui. Yes. Mais, du coup... Mais alors, ce que je peux faire peut-être pour ceux qui veulent, alors il y a le site internet de Théo, theoduverger.com, theoduverger.com pour ceux qui nous écoutent, juste avec l'audio. Donc, vous pouvez, n'hésitez pas à aller contacter Théo. Si j'imagine que tu, en ce moment, en plus, tu travailles à distance aussi.
Ah oui. En coaching, il y a beaucoup de dirigeants qui se trouvent un petit peu partout. Sur la planète. Et donc ça, on fait du Skype et du WhatsApp ou du Zoom et ça se passe très bien.
Ouais. Ok, super.
Il y a certaines choses qu'on ne fait pas à distance, mais ça, si tu veux, tu le découvres pendant la séance. Pendant la séance, si tu ne fais pas, tu dis, bon, écoute, on va se voir en cabinet et puis ça ira très bien, mais en 95% des cas, il n'y a aucun problème.
Ok, super. D'ailleurs, il y a des... Tu es venu en Guadeloupe en novembre pour la week organisée par Human Sync et tu as fait une conférence d'ailleurs qui est parmi les conférences les mieux notées de cet événement. Et c'était top. D'ailleurs, pour ceux qui étaient là, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Théo m'a fait venir sur scène et justement, on a fait cette fois-ci de l'hypnose plus spectaculaire. Mais c'est une expérience fabuleuse. Et toi, tu avais grave kiffé finalement la Guadeloupe. Tu avais adoré. Et tu t'es dit, bon, faut que je revienne. Et nous, on avait adoré aussi... ton sujet, et puis bon, Théo et moi, on est devenus super potes aussi avec Jean-Jacques French de Human Sync. Et donc, avec Human Sync, on a créé Alchemia, qui permet en fait à ceux qui sont peut-être en reconversion professionnelle ou ceux qui veulent simplement se plonger dans ça. Est-ce que, mais Est-ce que tu veux bien, je veux pas spoiler les gens en fait, je veux te laisser le plaisir d'en parler peut-être Théo.
Découvrir, ouais. Alors effectivement, bah tu l'as super bien dit. Moi, je suis tombé amoureux du territoire et puis des French. ça a été assez évident quoi. Votre envie d'aider les gens, votre envie de mettre l'humain au cœur finalement des organisations, etc. Et en m'intéressant un petit peu à ce qui se passait sur le marché de la formation en Guadeloupe, je me suis aperçu que les formations hypnose, la communication ericksonienne, ce genre de choses, il y avait un besoin. Tu vois, moi, je voyais aussi du côté parisien que quand les gens venaient se former, ils étaient assez frustrés parce que ça leur coûtait une blinde de se déplacer 2, 3, 4 fois parfois, de prendre un appartement ici dans des prix parisiens. Donc, on s'est dit, pourquoi pas venir fonder un stage d'accompagnement des gens à l'hypnose pour devenir praticien, thérapeute, pour devenir technicien en hypnose. Ça permet effectivement donc à des personnes qui veulent se reconvertir, un peu comme moi j'ai fait, hein, de devenir praticien en hypnose. Ça permet à des coachs d'avoir un nouvel outil. Ça permet à des thérapeutes psy ou quoi que ce soit, de se former à un outil complémentaire. Je pense à des ostéos, à des kinés qui viennent se former. On a aussi quelques infirmiers, quelques assistants médicaux aussi qui ont envie de se former avec nous. Donc écoute, moi, je suis ravi. On aurait dû démarrer là, si le confinement ne nous avait pas embêtés. Et je pense qu'on va remettre ça à la rentrée, du coup.
Ouais, c'est vrai. On avait plusieurs dates de prévues et aujourd'hui, on a dû répondre. Théo devait venir en Guadeloupe pour animer plusieurs modules de formation et démarrer lancer en fait alchemia.com par HumansLink. Et là, je pense que si je regarde rapidement les dates, on a posé des dates pour septembre. Ouais. Donc, je vais réafficher ça ici. Donc, n'hésitez pas, si c'est un sujet qui vous intéresse, si vous voulez approfondir et potentiellement devenir hypnothérapeute, ou simplement si vous avez des questions sur ce vaste sujet, vous pouvez aller sur al-kemia.com et on va commencer le premier module du 21 au 27 septembre 2020. Donc ça va arriver vite et on a bien hâte. Et je crois que Théo aussi a très hâte de venir nous rejoindre en Guadeloupe.
C'est toujours des moments riches en émotions, ça décadre beaucoup ce genre de formation. C'est des transformations. Hein. C'est aussi pour ça qu'on avait choisi Alchemia, quoi. Hein. C'est une alchimie, quoi. Hein. C'est ça qui est assez fort.
Exact. D'ailleurs, dites-nous en commentaire, je profite. Pour ceux qui nous suivent sur Facebook et sur YouTube, n'hésitez pas à poser des questions dans la partie commentaires. Par rapport au sujet qu'on a mentionné, donc les biais cognitifs, on a parlé de l'inconscient, on a parlé de comment en fait cette partie inconsciente quelque part est un bon système, qui est bien, notre cerveau est bien câblé, la nature fait bien les choses, c'est optimisé depuis 3,8 milliards d'années d'évolution. Et donc, en fait, quelque part, ce sont nos croyances qui vont faire en sorte qu'on va avoir un résultat que nous, on va juger limitant dans notre vie ou au contraire, qui va nous aider et nous propulser. En entreprise, Théo, parce que je sais que tu coaches aussi beaucoup les chefs d'entreprise, est-ce qu'il y a un… Comment expliquer ? Comment dire ça ? Est-ce qu'il y a des comportements qui sont assez flagrants que tu as observés ou quelque chose de récurrent qui peut être réglé ou qui est causé par la partie inconsciente. Donc, en entreprise, quand je veux gérer mes équipes ou quand on veut vendre ou quand on veut mettre en marché notre produit, notre service, aller au contact des clients pour leur dire, je suis capable d'apporter de la valeur. Notre entreprise, on travaille depuis des années pour cette solution-là, X ou Y. Est-ce qu'il y a des points récurrents que tu vois dans ton activité? Ouais.
Alors, énormément en fait. Et si tu veux, ça va reprendre un petit peu ce qu'on s'est dit jusque-là. Tu disais en coaching, l'idée c'est comment entrer en communication avec quelqu'un. La base de l'hypnose, c'est le rapport. C'est comment créer un rapport avec une personne. Imagine-toi que tu vas avoir en face de toi, si tu es thérapeute, une multitude de personnalités. Des gens qui vont être réfractaires, des gens qui vont être apeurés, des gens qui vont être grincheux, des gens qui vont être super motivés. Tu parlais par exemple dans la vente, quand tu es vendeur, c'est exactement la même chose. En face de toi, tu as des gens qui viennent, donc qui sont intéressés, mais qui vont avoir un profil légèrement différent. Il faut les rassurer, il faut les apaiser, il faut les accompagner, etc. Donc, au milieu, on va dire, dans le milieu de la vente, les formations à l'hypnose sont excessivement, on va dire, précises pour aider les vendeurs, parce que c'est vraiment l'endroit où ça peut aider le plus, et c'est la première chose à laquelle on pense. Maintenant, dans le management aussi. Bon, on fait beaucoup intervenir en consulting dans le problème de management, parce qu'encore une fois, construire des équipes, construire de l'adhésion, construire un ensemble de l'engagement dans ces équipes, bah, ça passe par des comportements du manager qui peuvent se travailler grâce à l'hypnose. En gros, on va travailler sur les peurs du manager, les peurs de se faire manger par ses équipes, peut-être les peurs de mal faire, peut-être les peurs de perdre le contrôle. Et en travaillant avec le manager lui-même, on peut ensuite travailler avec le manager et l'équipe. Et on utilise encore une fois l'hypnose et tous les processus d'hypnose pour développer, améliorer la performance collective grâce à une communication très spécifique. Donc tu vois, oui, ce sont des techniques d'influence, mais moi, tu le sais bien, mais c'est important de le rappeler, ce sont des techniques d'influence qu'on distille avec éthique. C'est toujours pareil.
C'est toujours pareil.
Je me souviens d'une formation que j'avais faite à des dirigeants. Et avant de démarrer la formation, j'avais demandé, ben voilà, qu'est-ce que vous attendez de cette formation? J'en ai un qui m'a dit, moi, je vais tous les contrôler. Par les collaborateurs.
Le super vilain, tu sais.
Donc, lui, il est resté un jour. Parce que j'ai passé la journée, si tu veux, à ne pas satisfaire ce qu'il voulait, justement, parce que c'est pas comme ça qu'on fonctionne. Et il a botté en touche. C'est des techniques d'influence utilisées avec éthique pour permettre à chacun, que ce soit ton client quand tu veux lui vendre quelque chose, que ce soit ton collaborateur quand tu manages, pour permettre à chacun de se retrouver grandi dans cette interlocution, dans cette communication qu'il y a eu avec toi.
Et ouais, effectivement, c'est de comprendre que bon, certaines personnes peuvent avoir des blocages et de pouvoir être équipé quand on est en position de manager ou de leader où on doit prendre soin de ses équipes, de pouvoir être outillé pour les aider aussi à ce niveau-là, quelque part, c'est ce que j'entends. Mais aussi d'être conscient de nos biais cognitifs à nous en tant que manager et leader pour pas créer du poison autour de nous, quelque part, des comportements qui sont toxiques et qui sont causés par nous et notre mode de fonctionnement, nos croyances, notre logiciel dont tu parlais. Donc c'est à ce niveau-là où ça peut aider. Puis sur la partie vente, en fait, c'est sûr qu'il y a un côté éthique, mais je pense qu'à l'origine, quand on est en entreprise et qu'on veut vendre quelque chose, pas dans la notion de vente, mais c'est parce qu'il y a un problème et qu'on a une solution à apporter. Et que dès qu'on vend, si on constate rapidement dans le processus que cette personne n'a pas besoin de notre produit, c'est la responsabilité éthique du vendeur et de l'entreprise de dire « mais c'est pas grave, on se reverra une prochaine fois, à un autre moment, pour autre chose. Et d'ailleurs, toi, tu as besoin plus de ça. » Mais moi, je ne le fais pas. Mais par contre, cette entreprise-là le fait. Je t'oriente. Et donc, c'est bon, je conçois que, en observant, malheureusement, c'est pas ce qui est toujours fait. Mais il n'y a jamais de bon moment. Enfin, c'est toujours le bon moment de faire la bonne chose. Donc, c'est l'éthique avant tout. D'ailleurs, tu allais répondre.
Non, je te sortirai une phrase d'un copain qui s'appelle Philippe Gabillier, qui a écrit un bouquin assez sympa sur qui s'appelle Éloge de la chance. Philippe disait toujours, la chance, c'est de réussir à être une chance pour les autres. Et donc, quelque part, l'éthique, elle est là, quoi, d'aller derrière ça, quoi. Si, quand tu vends quelque chose, et si on reprend la vente, pour moi, tout est vente, hein. Moi, quand je vends à ma fille d'aller se coucher à 8h30, je suis en train de faire de la vente avec elle. Tu vois, je lui vends pas un produit, mais je lui vends une idée. Tout est de la vente. Mais l'idée, c'est ça, c'est pourquoi tu fais ça? En quoi c'est important pour elle qu'elle aille se coucher à 8h30? Bien derrière, il y a tout un des leviers de motivation qu'on peut utiliser, qu'on va utiliser justement parce qu'ils sont tirés des stratégies d'hypnose ericksonienne pour lui permettre d'aller se coucher pour son bien et ainsi de suite. Et le lendemain, quand elle arrivera avec le sourire comme ça parce qu'elle a bien dormi, écoute, ça sera chouette pour elle. Soyez une chance pour les autres. Soyez une chance pour les autres.
Soyez une chance pour les autres. Il y a une phrase qu'on aime beaucoup avec Human Slink et avec Jean-Jacques, c'est de se dire, le matin, quand on se lève, c'est de poser une question à laquelle on ne va pas répondre. En fait, notre journée va en être la réponse, mais c'est de se dire, comment est-ce que je peux servir? How can I be of service? Influence montréalaise, je l'ai dit en anglais. How can I be of service? Et en gros, c'est comment est-ce que je peux être au service? Comment je peux servir aujourd'hui? Et je trouve que ça s'inscrit dans ce que tu dis, ça me parle beaucoup.
Oui. C'est qu'est-ce que je peux faire pour vous? C'est vraiment ça, quoi, le plus intéressant. C'est qu'est-ce que je peux faire pour vous? Et évidemment, tu vois, on parle des vendeurs, mais soit des mauvais vendeurs quand t'arrives dans les magasins. Je peux vous aider? Déjà, ça, c'est une phrase, elle veut dire la même chose, mais elle n'est pas bonne parce que ça ferme tout de suite. Non, ça s'appelle une question fermée, ça t'amènera à un non. Mais derrière ça, il y a qu'est-ce que je peux faire pour vous? Si quelque part, dans la tête de tous les vendeurs, il y a vraiment ça qui est ancré en eux, déjà, leur résultat va être meilleur. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je pense qu'un client, je pense qu'une personne avec qui tu vas vendre une idée, quand elle comprend que tu fais ça pour elle, quand elle comprend « what's in it for me », influence Paris, « what's in it for me », quand elle comprend ça, la personne, et que tu es là pour augmenter ce cadeau que tu vas lui faire. Et c'est un principe d'hypnose. Quand la personne, elle est bloquée dans son changement et qu'elle comprend qu'en fait, bam, ok, c'est parce que je vais faire ça que je me sentirai mieux, même si ça lui paraît bizarre, elle le fait.
Ouais. Ce qui est drôle pour moi, parce que je fais des liens, quelque part, en fait, au lieu de présenter quelque chose, au lieu de vendre une idée ou de vendre un produit, que ce soit à ta fille, que ce soit à un conjoint ou à un collaborateur ou à un client potentiel, c'est si je veux être au service, si je veux vraiment t'aider, je dois mieux comprendre où est-ce que tu es et ce que tu veux et de quoi tu as besoin. Donc, quelque part, ce que j'entends, c'est on commence par une question et pas nécessairement par une proposition. On commence par un ensemble de questions pour bien comprendre et entamer une discussion. Okay. D'ailleurs, au Québec, les Québécois sont connus pour être très accueillants. Et dans le commerce au détail, c'est quelque chose de fou. On le voit super bien. Et la relation dans le commerce de détail, c'est tout de suite, on est salué. Mais il y a cette distance, c'est suffisamment éloigné, mais pas trop. Il y a un lien qui se fait. Et il y a souvent des conversations qui démarrent, qui a priori ont l'air complètement déconnectées des produits vendus en magasin, en fait, et qui permettent de créer du lien. Et quelque part, en faisant ça, le vendeur se comprend où est-ce qu'on est, dans quel mind space, dans quel état d'esprit on est et peut nous aider réellement et pas juste nous vendre et nous agresser ou nous embêter quelque part.
C'est ça, créer le rapport.
Exact. Je salue Chantal qui est connectée sur le chat. Il y a Virginie Scotto aussi qui est là. Ça me fait plaisir de vous voir. Il y a Yolande je ne sais plus si on l'a salué, Yolande. Isabelle aussi qui est sur Facebook, c'est top. Et d'ailleurs, il y a Chantal qui nous dit « Et comment on fait quand on n'est pas en Guadeloupe, pour suivre ta formation, Théo ?»
Alors, tu sais, Chantal, je vais te répondre à un truc, mais j'ai beaucoup formé les gens à Paris. Et l'idée de la Guadeloupe, c'était effectivement pour pouvoir, on va dire, servir au mieux possible tous ces Antillais qui étaient en galère pour pouvoir venir se former en métropole. Mais derrière, il y a une idée qui est venue aussi, c'est souvent les gens, quand ils se forment à l'hypnose, ils se forment sur leur RTT, sur leur temps de vacances. Et se former sur tes RTT, sur tes temps de vacances, dans une salle moche à Paris avec des néons tout froids, entre deux métros, ou se former sur une plage avec les cocotiers et le petit ponche qui va bien, voilà, je pense que tu as de quoi choisir.
Puis après, il y a aussi quelque chose qu'on a fait avec toi, Théo. Je vais juste le mentionner, c'est pas le sujet nécessairement. Théo en fait a fait une formation qui est 100% en ligne pour la vente en utilisant justement des techniques d'hypnose justement pour pouvoir bien comprendre comment naviguer cet espace, ce contexte. Et donc ça, c'est une formation où on n'a pas besoin de se déplacer, c'est en ligne, c'est distribué par Humans Link et il y a Théo, tu organises plusieurs lives en fait, un peu comme le format qu'on fait en ce moment, pour garder cette proximité avec les gens qui participent.
Exactement. Ça, c'est vraiment orienté pour les vendeurs. Ça, je ne sais pas si Chantal, c'était ce que tu cherchais, mais ça, c'est très, très orienté pour les vendeurs, justement.
Il y a Chantal qui réagit avec des petits smileys, des petits cœurs. On t'aime fort, Chantal. Chantal qui était là aussi pour la week en novembre, c'était super. Bon, et les amis, ça passe super vite, la pause café, il nous reste 5 petites minutes. Théo, est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose, que je ne t'ai pas posée?
Eh bien, pas spécialement. Moi, je pense que c'est vraiment des sujets où on pourrait parler pendant des plombes. Et je trouve que ça a été super intéressant, toutes les questions que tu m'as posées. Moi, j'espère ne pas avoir fait des trop gros tunnel de réponse parfois. J'ai entendu que c'était un peu long.
Écoute, moi, j'ai trouvé ça passionnant. Dites-nous en commentaire si ça vous a plu, si vous voulez en savoir plus sur quel sujet, où est-ce qu'on a passé, où est-ce que vous auriez aimé qu'on passe plus de temps. Dites-nous en commentaire, ça va nous aider pour savoir si on referait peut-être potentiellement une pause café avec Théo. Il y a une question quelque part, Théo, qui est d'actualité, c'est déconfinement en France, bon, bientôt au Québec, en Guadeloupe aussi, déconfinement aujourd'hui. Comment on peut aider les gens dans ce déconfinement, sachant qu'il y en a qui ont très peur du virus? Est-ce qu'il y a des trucs que tu aurais à partager avec nous? Ou alors pas du tout.
Si, alors respectez les gestes barrières, ne vous roulez pas des pelles. Non, en fait, je pense que tu as répondu un petit peu en amont dans cette interview. C'est cette question, quoi. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Dépasser l'individu pour aller dans le collectif. Dépasser l'individu et qu'est-ce que je peux faire pour toi? En quoi je peux être une chance pour toi aujourd'hui? Tu penses que si on arrive à se mettre ça en tête, on aura une société beaucoup plus juste et beaucoup plus bienveillante. Et si on arrive à le caler, ça me rendrait très heureux.
Mais oui, il y a une réflexion, c'est drôle, c'est vrai que tu parles ça, que j'avais ce matin. Et j'étais en train de me dire, j'imaginais, en fermant les yeux, juste serrer la main à quelqu'un ou juste faire une accolade. Et j'ai l'impression que ça fait tellement longtemps que je n'ai pas fait ça, qu'en fait, je prends conscience qu'avec ce déconfinement, et une fois que ce sera vraiment revenu à la normale, entre guillemets, la valeur que chaque poignée de main ou chaque accolade ou chaque bise qu'on va faire, la valeur que ça aura quelque part. Le lien qu'on a donc aujourd'hui, c'est aussi de pouvoir se parler, d'avoir cet échange, de pouvoir entendre ta voix et de pouvoir voir les gens en commentaire qui réagissent et qui nous saluent, qui posent des questions. Ça renforce le lien humain, je trouve ça fabuleux. Et j'ai très très hâte de pouvoir tous vous voir en fait en personne. Même si on va continuer, c'est une question qu'on a aussi de temps en temps, c'est de savoir, ok, mais post-café, c'est top, est-ce que vous allez continuer après le déconfinement? Alors la réponse est oui et non. C'est-à-dire que cette semaine, on continue tous les jours à 11h comme d'habitude, tous les jours de la semaine à 11h avec un nouvel invité. Mais à partir de la semaine prochaine, on va changer le format, c'est-à-dire que post-café va revenir une fois par semaine. On n'a pas encore choisi l'heure d'ailleurs. Si en commentaire vous pouvez nous dire, est-ce qu'il y a un horaire qui vous arrange, sachant qu'on va tous reprendre le travail sur des horaires de bureau, etc. À quelle heure de la journée vous aimeriez pouvoir suivre cette pause café? Alors si c'est à 11h le soir, on changera peut-être le nom pour pas que ce soit pause café, mais c'est pas grave. Dites-nous en commentaire ça peut nous indiquer. Donc pause café va revenir une fois par semaine. Et puis avec Jean-Jacques French, qu'on va accueillir sur un autre format de live, on va pouvoir répondre à des questions très pragmatiques sur les problématiques d'entreprise, d'organisation, comment on gère la motivation, comment le stress de revenir au bureau, comment on fait pour... Bon, tout ça. Donc dites-nous le jour et l'heure en commentaire, ça va nous aider à vous proposer un nouveau planning. Et puis Théo, avant de se quitter, est-ce qu'il y a un bouquin ou un film que tu aimerais nous proposer à tous, un bouquin qui t'a plu, que tu aimerais partager avec nous?
Alors, le livre, c'est « Le Messie récalcitrant » de Richard Bach. C'est un livre qui a vraiment changé ma vie, pour le coup, et par un auteur qui est... je pense que lui, il a tout compris, justement, à l'hypnose, il a tout compris... Enfin, voilà, c'est vraiment un livre très marquant, très touchant. Et à chaque fois que je le conseille à des personnes, les personnes qui le lisent n'en ressortent pas indemnes. Ça, c'est vraiment mon bouquin, on va dire, marquant de votre bouquin de vie, quoi. C'est vraiment ça qui m'a le plus marqué. Un film. Alors, le film qui m'aura probablement le plus marqué, moi, c'est le film Lion. Je sais pas si tu connais ce film.
Lion?
Une histoire. Non, ouais. Non. C'est un film, je crois que j'ai jamais autant pleuré de ma vie.
En Inde. Ah oui, ok.
Petit garçon qui va perdre son frère et qui va traverser toute l'Inde, arriver en Australie pour pouvoir retrouver. Mais ça t'explique ce que c'est que l'engagement, ça t'explique ce que c'est que d'avoir un but et puis de dépasser tous tes blocages et toutes tes peurs, quoi. Quand t'as vraiment un objectif en tête et que tu peux y arriver, coûte que coûte. Tu poses pas de questions, tu fonces.
Super. Je vais juste partager ici. Donc c'est Lyon. le film avec c'est Dev Patel, je crois, l'auteur. Pas l'auteur, l'acteur, pardon.
Ouais.
Super. Effectivement, j'ai beaucoup entendu parler de ce film. Je ne l'ai pas vu, mais super. Est-ce qu'il y a une musique? Je sais que parfois, avant d'entrer en scène, parce que tu fais aussi du théâtre, tu fais des shows, tu es maître conférencier. Avant d'entrer en scène, je crois que tu utilises, enfin, tu écoutes certaines musiques pour te mettre en axe.
Yes. Alors, il y a la musique très connue de Rocky que je passe assez souvent, mais en ce moment, je suis très très Don't Stop Me Now de Queen.
Ok.
Alors, ah ouais. C'est ça. Là, laisse tomber, ça, je peux pas rester assis, là, j'explose.
Top, alors ça c'est un truc que tu avais partagé avec moi lors de la week Human Sync qu'on avait fait en novembre, où tu me disais bon ben la musique pour te mettre dans l'état émotionnel, dans l'état même physiquement, en fait, de te mettre en axe directement dans l'état où tu veux. La musique, c'est un bon outil pour sortir d'un état de stress ou pour sortir d'un état X ou Y et arriver dans un état de performance et de... C'est top. Donc, c'est Eyes of the Tiger de Rocky, grand classique. Don't Stop Me Now de Queen. C'est vrai que moi, j'aurais découvert Queen grâce au film, en fait, Bohemian Rhapsody.
On n'a pas le même âge.
Parce que c'était pas ma génération, ouais. Mais j'avais adoré. Ah là là. Bon, en tout cas, merci beaucoup Théo d'avoir répondu à l'invitation pour cette pause café.
Merci de l'accueil.
Et puis, ben, merci à vous tous qui nous avez suivis en live sur YouTube et sur Facebook. Je rappelle pour ceux qui n'avaient pas l'info, en fait, chaque pause café est rediffusé sur format audio par podcast. Donc, vous pouvez chercher, c'est HumanSling Audio Experience. Je vais le taper juste à l'écran rapidement. Think Audio Experience, et sur n'importe quelle plateforme, en fait, de podcast, que ce soit Spotify, Apple Podcast ou Google Podcast aussi, et enfin, je crois qu'on est sur une quinzaine de plateformes différentes, donc juste vous pouvez chercher ça, en fait, sur n'importe quelle application de podcast pour pouvoir suivre toutes les émissions en audio. Si jamais vous êtes dans votre voiture, retour au bureau et tout ça, que vous pas nécessairement voir avec la vidéo. Tous les épisodes de Pause Café sont ici disponibles en audio. Merci pour votre participation, pour vos commentaires. On se retrouve demain pour une nouvelle Pause Café à 11h, tous les jours de la semaine, à 11h en Guadeloupe et Montréal, et 17h en France. Soyez humains, soyez extraordinaires. Merci à tous.